Et donc, on va aborder le troisième aspect de cette exposition. Tu viens de parler des associations. Donc, c'est 40 associations pour cette exposition qui s'appelle « Street Art et Solidarité hein, ». Il y a ces deux mots. Donc, 40 associations qui sont au service des plus fragiles. Donc, c'est vraiment l'angle retenu par les organisateurs. Et donc parmi ces associations, on a vu qu'il y a SOS Méditerranée, Autonomie 31 et Tech 31. Et bon, ce sont des associations qui nous sont chères. On en parle beaucoup au petit papier. On parle pratiquement toutes les semaines des mineurs isolés étrangers. On aimerait bien ne plus en parler, mais malheureusement, l'actualité nous ramène ce sujet sans arrêt. Et le 8 mars, lors de la Journée internationale des droits des femmes, on a réalisé un son en hommage aux filles d'autonomie. Et donc, on va écouter ce son.
Que ce soit le lendemain du sauvetage ou à l'annonce du débarquement, les femmes sont souvent celles qui initient les chants pour célébrer le bonheur d'être en vie, au cœur d'un périple qui les a pourtant laissées meurtries et dont l'issue est plus qu'incertaine. Ces moments de joie intense, Tess Barthès, photographe et vidéaste à bord de l'Océan Viking, les a filmés en cette fin de janvier 2024. SOS Méditerranée France. Parmi ces femmes migrantes qui, quelle que soit la route, chantent l'espoir, il y a de jeunes femmes, mineures, isolées, étrangères, des enfants privés de leur enfance que la France n'arrive pas à consoler. Depuis mars 2023, à Toulouse, elles sont 20 à avoir été mises à la rue par le DAOMI, dispositif d'accueil, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés. Des enfants mises à la rue, après tout ce qu'elles ont déjà vécu, par la France qui ne veut pas effacer leurs souffrances. En septembre 2022, elles livraient leur colère au photographe Ben Hardcore. Extrait du blog de Mediapart de Ben Hardcore. Daomi 81, Albi, centre d'évaluation pour les filles. Quand tu dis ton nom, on te dit que ce n'est pas ton nom, que c'est celui de quelqu'un que tu as pris. Quand tu dis ton pays, c'est pareil, on te dit que tu mens. Un jour, il y avait un enfant. Ils l'ont séparé de sa sœur. Le petit ne mangeait pas, il ne parlait à personne. On m'a demandé d'aller lui parler pour qu'il puisse manger. J'y suis allée, on a parlé, et il a mangé. Ensuite, nous sommes allés jouer. Ils sont allés écrire dans leur rapport que je suis comme une mère, que mon comportement ne prouve pas que je suis mineure. Chez nous, en Afrique, on a une autre façon de se comporter avec ses parents. Ce n'est pas la même façon qu'ici. Ma mère m'a appris à travailler à la maison pour me préparer à l'avenir. Mais ça ne veut pas dire que je suis majeure. C'est une autre culture. Il se base sur des points insensés. En Afrique, à partir du bas âge, on apprend beaucoup de choses auprès de nos parents. On développe un système d'adultes depuis petit. Par exemple, quand tu es petite, tu sais faire le ménage, la cuisine, t'occuper des plus petits. Mais quand tu dis ça aux Daomi, ils te disent que non, que tu développes un système d'adulte et que tu es intelligente, donc que tu n'es pas mineure. Pour eux, tu dois te comporter comme une gamine et jouer avec des trucs d'enfant. Chez nous, on ne sait pas ce que c'est le jeu. Nous n'avons pas les moyens de nous offrir tout ce luxe. Ce que l'on connaît, c'est le champ, les travaux difficiles. On se développe avec ça. Et on ne peut pas laisser ce que nos parents nous ont appris parce que Daomi nous impose des choses que nous, on ne peut pas faire.
Oh lélé, oh lélé, Moliba Makassi.
Je suis restée 3 semaines au Wyoming. C'est au cours de ma 3e semaine que l'on m'a libérée. Je ne connais pas Toulouse, mais ils m'ont donné une fiche et m'ont dit où je pouvais aller manger, où je pouvais aller me soigner et d'appeler le 115 pour dormir. Je ne connais personne ici. Comment je fais ? Je vais aller dormir à la gare ? Heureusement que j'avais des connaissances liées à autonomie. Sinon, j'étais à la rue et peut-être que j'allais faire des bêtises et subir des violences. En majorité, nous, les filles, on court un grand risque. On ne peut pas être dans la rue. Tu peux te donner à n'importe qui. Comme tu es femme et que tu viens d'arriver, tu ne connais rien. Je suis allée au 115. Il fallait y être à 20h. Le lendemain, j'ai quitté les lieux à 11h et je ne savais pas quoi faire. Je suis retournée chez l'avocate et elle m'a donné le numéro d'autonomie. J'avais une amie au Wyoming qui connaissait du monde à autonomie et m'a donné leur numéro. J'ai vu comme un ange de Dieu qui m'avait envoyé cette dame-là. On te fait croire que la vie ici, en France, c'est une mer rose de parfums. Quand tu commences à t'habituer à ça, on te met dehors. Pour subvenir aux besoins élémentaires de ces jeunes filles, mineures, isolées, étrangères, mises à la rue par le Wyoming à Toulouse. Le collectif Autonomie, l'association Tech 31, Médecins du Monde, Utopia 56 et d'autres se mobilisent pendant la durée de leur recours auprès de la juge des enfants. Une collecte en ligne peut recevoir vos dons. Sur Hello Asso, tous teus en classe 31, aide au logement de jeunes filles mineures isolées. Retour sur le pont de l'océan Viking. Il y a de quoi te faire confiance, l'océan Viking. Tu as sauvé tous nos enfants. Tu nous as sauvés de la noyade. Les femmes rescapées improvisent une chanson en hommage à leur sauvetage, aux équipes à bord et aux navires. Entre le 21 et le 22 janvier 2021, le navire ambulance, l'Ocean Viking, porte secours à 374 personnes sur 4 embarcations en détresse en Méditerranée centrale. Parmi elles, 48 femmes et 165 mineurs, dont 21 bébés. Une femme présentant une grossesse à risque est évacuée en urgence par les gardes-côtes italiens le 23 janvier. Le 25 janvier, les 373 rescapés sont débarqués en lieu sûr dans le port d'Augusta, en Sicile. Leur voix résonne, rappelant les missions essentielles de SOS Méditerranée, sauver et protéger les personnes en détresse en mer. SOS Méditerranée France.
Yeah.
soutenez SOS Méditerranée, soutenez Autonomie 31, le collectif de soutien des mineurs isolés étrangers et étrangères. Vous trouverez les liens pour verser vos dons au collectif Autonomie sur son Facebook. Soutenez toutes et tous en classe 31 qui bricolent pour mettre les jeunes mineurs isolés à la rue, à l'abri, et les protéger en attendant qu'elles soient prises en charge. Tous teux en classe 31 sur Hello Asso, aide au logement de jeunes filles mineures isolées. Donnez, soutenez, engagez-vous.
Engagez-vous, bah Jennifer Grumman est un exemple d'engagement. Bénévole à Tech 31 depuis sa création en 2017, c'est ça ?
2018.
2018, ça fait mal de le dire.
Ouais. L'association s'est créée en 2018, mais on donnait déjà, il y avait déjà d'une manière informelle des cours qui étaient donnés, des démarches de scolarisation qui ont été faites. L'association, par contre, elle s'est créée en 2018. Et donc, ça fait pratiquement 7 ans que je suis bénévole.
Est-ce que tu peux nous présenter un peu les missions que se sont données
Alors, Tech 31 a vraiment été créé pour scolariser les mineurs isolés étrangers en recours de minorité. Parce que quand on a commencé à faire des démarches de scolarisation, on s'est heurté à des problèmes administratifs parce que ces jeunes-là n'ont pas de représentants légaux.
Donc pour juste rappeler la problématique, en recours de reconnaissance de minorité, ça veut dire que l'organisme qui est censé évaluer leur minorité conteste leur minorité.
Et les conteste pour des raisons complètement fallacieuses et les mettent dehors.
Voilà, mais vraiment donc, dehors, ce sont sans des aucun jeunes soutien. À la rue, sans aucune prise en charge, alors qu'ils sont mineurs.
Exactement, puisque de toute façon, ils ont des papiers qui attestent de leur état civil et donc de leur minorité. Et donc Tech, ça a vraiment été créé. On donnait des cours déjà. Et en fait, quand on a commencé à essayer de faire des démarches de scolarisation, on s'est heurté à plusieurs problèmes. Justement, le problème du représentant légal, le problème de l'assurance scolaire. Et on s'est monté en association pour pouvoir aider les démarches de scolarisation. Ça a été très efficace. Puisque la première année, quand on a commencé, on avait 5 scolarisations. Et par exemple, cette année, on en est pratiquement, on en a plus de 60. Et c'est pas la première année.
60 jeunes scolarisés par l'association Tech 31.
Exactement.
Dans les différents établissements de l'Académie de Toulouse et même parfois en dehors de l'Académie de Toulouse.
Oui, tout à fait. Alors, on a eu exceptionnellement un jeune à Pamiers, on a des jeunes à Muret, on a des jeunes à Léguevin.
Ça reste l'Académie de Toulouse, pardon. Ouais, c'est ouais. Juste pardon. En dehors de Toulouse, effectivement.
Ouais. Mais bien sûr, de toute façon, nous, on serait prêts, ils sont prêts à prendre n'importe quelle place. Ils sont extrêmement demandeurs d'aller à l'école, qu'ils aient été à l'école antérieurement ou pas, d'ailleurs. Et donc voilà, ils viennent beaucoup pour ça, pour avoir la possibilité d'apprendre un métier, de se former et puis de s'insérer dans la société française. Donc ce sont des démarches pour eux qui sont extrêmement importantes.
Et donc Ghislaine, tu nous disais tout à l'heure, il n'y a pas de frein à inscrire ces jeunes à l'école, même si ils n'ont pas de représentant légal, même s'ils ne sont pas encore pris en charge.
Ben non. Si on veut les insérer, il faut qu'ils soient scolarisés. Enfin, on ne demande pas d'où viennent les élèves. Ils s'inscrivent. Les représentants légaux, c'est l'association. Et puis quand ils sont pris en charge par le département, ça devient le département. Mais ce sont des élèves qui ont envie d'apprendre, qui sont hyper respectueux. Vraiment, c'est des élèves en or, quoi. Ils ont envie d'être là et de réussir.
Alors, je corrige juste, on n'est pas des représentants légaux, on est des adultes qui les accompagnent. Et après, ils auront un représentant légal, mais par contre, ils sont suivis par des adultes. On est très réactifs, on est à leur côté, on est là aussi pour les soutenir scolairement à tous les niveaux. Donc, il y a toute la structure de Tech 31 qui est là justement pour qui est présente et qui a été, on est en rapport avec le rectorat, donc c'est c'est de manière complètement officielle.
Donc ça, c'est la bataille de l'école qui se déroule assez bien pour un certain profil de ces jeunes, mais il y en a beaucoup qui n'accèdent pas à l'école parce qu'il n'existe pas de formation adaptée pour eux ou parce qu'ils arrivent trop tard.
Alors, c'est le problème qu'on a sur Toulouse. Alors, il y a quand même quelque chose qui a changé cette année, et notamment au lycée Urbain Vitry, qui est que on sait, donc nos jeunes, ils ont été soit scolarisés antérieurement, soit ça n'était pas le cas. Ça a toujours été pas facile, mais en tout cas, scolariser ceux qui l'ont été au pays, y avait des démarches possibles. On se heurtait par contre à un mur pour ceux qui ne l'étaient pas. C'est en train, ça a pu changer un petit peu cette année, notamment au lycée Urbain Vitry, parce qu'on a pas mal de jeunes qui n'avaient pas été scolarisés antérieurement, alors qu'il y avait moins de 16 ans, ça concerne que les moins de 16 ans, mais qui ont pu accéder à des places à l'école.
Donc des places en UPE2A, c'est ça ?
Exactement, des places en UPE2A.
Donc des classes d'accueil pour des élèves allophones.
Oui, c'est ça.
Et donc ça c'est absolument formidable. Et puis, mais alors, les principaux écueils auxquels on se heurte, le principal, c'est le manque de places. C'est-à-dire que on arrive encore à avoir quelques places, enfin, on arrive à avoir des places à la rentrée scolaire pendant quelques mois, et à un moment, alors que ce soit des établissements publics ou des établissements privés, parce qu'on a des établissements privés qui nous soutiennent. Mais sinon, à partir du mois de novembre-décembre, ça commence à devenir extrêmement compliqué. Et pourtant, les jeunes, ils continuent à arriver et leur désir, il est toujours là. Et ils sont obligés d'attendre des mois, parfois, pour avoir une place à l'école, alors que c'est vraiment quelque chose qui les travaille énormément et dont ils nous parlent tout le temps.
Et donc, à côté de la bataille pour l'école, il y en a une qui est simplement la bataille pour vivre, pour survivre, pour se loger, pour s'alimenter, pour se vêtir. Et Tech 31, aux côtés d'Autonomie et d'autres associations, vous êtes aussi de cette partie-là. Donc, on a suivi les deux expulsions en une semaine du bâtiment à Paul Sabatier, puis du gymnase occupé à Saint-Sernin. Des expulsions violentes avec des arrestations. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors ça a été... On sort là d'une période extrêmement, extrêmement difficile, extrêmement violente pour les jeunes. Il y a eu la première expulsion du bâtiment qu'ils occupaient à Paul Sab, alors que la nouvelle présidente élue de l'université s'était engagée à ne pas expulser les jeunes durant l'hiver. Donc les associations qui les suivent, on était en train de quand même... On savait qu'il y avait une mesure d'expulsion qui serait lancée, mais on ne pensait pas que c'était dans l'urgence. Donc on est quand même tombé des nues.
Donc ça, c'était en février. Hein.
C'était le 23 février. Suite à cette expulsion, les jeunes, enfin, ils sont sortis quand même du bâtiment. Personne ne savait où aller. C'était horrible. Il pleuvait, il faisait froid. Enfin, c'était cauchemardesque. Ils étaient avec leurs valises sous la pluie. Enfin, voilà.
Et là, il y a déjà eu des interpellations à ce moment-là.
Non, les interpellations ont eu lieu après. Donc après, suite à ça, il fallait qu'ils se mettent à l'abri. Il faisait très froid. Il a fait vraiment très froid. Et puis début mars aussi, ça. Donc ça a vraiment été épouvantable. Et ils sont allés dans le gymnase Saint-Sernin. Qui en plus symboliquement un endroit où plusieurs familles se sont mis à l'abri quand elles n'avaient pas de logement. Il y a eu une mesure, il y a eu une décision d'expulsion et il y a eu une nouvelle expulsion une semaine après l'expulsion du 23 février qui a été là pour le coup extrêmement traumatisante pour les jeunes parce que alors on savait que ça allait arriver, ils étaient prêts d'une certaine manière et disciplinés. Mais ce qui s'est passé, c'est lors de cette expulsion, la police a voulu qu'ils sortent par la petite porte de derrière. Eux, ils ne voulaient pas parce qu'en fait, ils avaient peur d'être complètement dispersés, ne pas se retrouver. Enfin, faut savoir que dans les jeunes qui sont là, il y a des jeunes qui parlent pas très bien français, qui maîtrisent pas Toulouse parce qu'ils viennent juste d'arriver. Et leur grande peur, c'est d'être perdu dans la ville et d'avoir perdu le contact avec les adultes, avec les copains. Donc ils ont demandé à sortir par la grande porte. Et en fait, les policiers, d'une certaine manière, pour les intimider, ont fait 5 arrestations arbitraires parmi le groupe de jeunes pour mater la contestation. Je pense qu'ils ont vu ça comme ça. Et donc, on s'est retrouvés avec 5 jeunes qui ont été envoyés au CRA et qui se sont retrouvés ensuite avec un OQTF. Ça a été traumatisant.
Ça a été aussi... le CRA, le centre de rétention administrative, qui n'a pas vocation à accueillir des mineurs.
Exactement, et ça a été alors pour eux ça a été une violence incroyable, surtout qu'en plus quand ils ont comparu devant le juge, ils étaient menottés. Ils n'avaient rien fait quand même, hein, je veux dire. Et c'était ces cinq-là, ça aurait pu être cinq autres. Hein. C'était pas parce qu'ils avaient été violents ou quoi que ce soit. Et donc, voilà, avec cinq OQTF, avec tout ce que ça peut impacter sur leur avenir, enfin voilà, ça a été extrêmement, extrêmement dur. Donc voilà, donc après, suite à... Et puis ça a traumatisé tout le monde, hein, ça a traumatisé et ces jeunes-là, et tous les jeunes qui ont assisté à ça, ils ont eu extrêmement peur. C'était l'idée, hein, de toute façon, hein, l'idée c'est de leur faire peur et de vouloir qu'ils s'en aillent.
Donc on rappelle quand même que à ce moment-là, la couverture médiatique parlait d'expulsion dans le calme, sans violence.
C'était dans le calme, sans violence. Voilà, oui, violence, elle a été contre les jeunes.
La violence a été contre les jeunes par ces arrestations complètement arbitraires et sans aucune...
Sans aucun fondement, exactement. Donc, alors ensuite, suite à cette expulsion, ils sont restés 10 heures place Saint-Sernin parce qu'ils ne savaient pas où aller. Et en fait, ils ont trouvé refuge dans une église. Il y a eu la discussion avec l'archevêque, ils ont pu rester quelques nuits. Alors, il faut savoir... L'avantage de l'église, c'est que justement, comme il y avait la discussion avec l'archevêque, ils étaient plus sous la menace d'une expulsion. Par contre, il faisait froid, mon Dieu, c'était horrible. Il faisait froid, on en a plein qui sont tombés malades. On n'a vraiment pas eu de chance parce qu'à ce moment-là, donc début mars, le temps était absolument épouvantable. Et dans cette église, il n'y avait pas de chauffage. Donc ça a été un cauchemar. Après, ils ont été dans un collège qui a été très, très gentiment prêté par un établissement privé. Mais il fallait qu'ils le libèrent. Un gymnase qui a été donc prêté par le collège de la Prairie, mais à côté de ça, il fallait qu'ils partent. Il y avait les cours, donc il fallait qu'ils partent dans la journée. Donc ils étaient dehors, pareil.
En errance totale.
Ça a été cette période-là a été épouvantable. Après, ils ont eu un autre lieu, mais qui était absolument pas fait. Et en fait, depuis une semaine, un peu plus d'une semaine, ils ont trouvé un nouveau lieu de vie. Il y aura une mesure d'expulsion, c'est sûr, mais pour l'instant, rien n'est lancé et on espère qu'ils vont pouvoir souffler un peu parce que ça a été très, très, très dur pour eux.
Donc, ce nouveau lieu de vie, c'est au 50 Avenue de Grande-Bretagne, métro Patte-d'Oie. Est-ce qu'on peut communiquer une liste de besoins ? Est-ce qu'on peut inviter les gens à se rendre sur ce lieu pour apporter des choses ?
Se rendre peut-être pas aussi facilement, je veux dire, on est quand même... On reste méfiant, je veux dire. On a quand même connu une période extrêmement compliquée. Et puis voilà. Et puis un jour, il y aura une nouvelle procédure d'expulsion. Par contre, il y a la liste des besoins sur la page Facebook d'Autonomie 31. Et il ne faut pas hésiter parce que là, ils sont en train de... Parce que ce qui a été aussi terrible, c'est lors des expulsions, y en a plein qui ont perdu des vêtements, par exemple. Alors, encore plus catastrophique pour eux, ils ont perdu des documents administratifs. Mais voilà, il y a à nouveau besoin de matériel. Ils ont perdu leur quoi. Il n'y avait plus de couverture, plus de matelas. Il a fallu recréer à chaque fois qu'ils étaient dans un lieu. Donc oui, bien sûr, le matériel pour faire le ménage, par exemple, qui leur manque terriblement.
Et donc plutôt contacter par Facebook, les militants, les militantes, pour adresser les dons.
Exactement. Et ensuite, ce sera organisé avec les jeunes pour qu'il y ait... Ils sont très, très bien organisés. Il y a des référents dans le bâtiment qui sont ceux qui réceptionnent, qui stockent, qui organisent ça, qui organisent la redistribution aussi. Donc, de toute façon...
Et pour la nourriture, ça se passe comment ?
Pour la nourriture, il y en aura besoin aussi, parce que, alors là, aujourd'hui ça va, mais on sait très bien que ça va pas durer, parce que ce qui se passe, c'est que toutes les associations qui les aidaient énormément et qui sont des associations comme le Secours Populaire, les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, sont extrêmement sollicitées parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une très grande précarité et qui n'arrivent pas à se nourrir. Il n'y a pas que nos jeunes en font partie, mais ils ne sont pas les seuls. Et du coup, il y a moins de dons, mais ce qui paraît logique. Mais le problème, c'est que du coup, on s'est quand même retrouvés. Déjà, c'était le cas quand ils étaient au bâtiment à Ramonville, de la fac, où ils ne mangeaient pas toujours à leur faim quand même. Hein. Ils font un gros repas par jour, et puis voilà, quoi.
Donc, Secours Populaire, qui fait aussi partie des associations partenaire de l'exposition Banksy. Donc on y revient. Tech 31, quelle place dans cette organisation, quel bénéfice en tire l'association?
Ah bah pour nous, c'est très important. D'abord, on a été contacté par Madame Brunello, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même 10 jeunes qui sont suivis par l'association, qui sont scolarisés dans le lycée et qui ont été incroyables. Le lycée Urbain Vitré, qui ont été incroyablement soutenus par le lycée durant toute cette période. Ça c'est pour nous, c'est très important. On les en remercie vraiment. Enfin, je veux dire, on l'a dit plusieurs fois, on continuera à le dire.
Il y a eu une grosse solidarité quand même de la part de...
tout le lycée. Tout le lycée. Et l'administration et les
mais
professeurs.
Mais aussi d'autres lycées.
Tout à fait.
C'est qui scolarisent.
Oui, tous les lycées qui accueillaient, ils ont été extrêmement sensibles à ce que vivaient leurs élèves. Et en effet, le lycée Charles de Gaulle aussi. Voilà. À Muret, il y a vraiment... les établissements étaient très sensibles. Mais alors, je pense qu'ils auraient été sensibles, quel que soit le profil des élèves, mais c'est aussi parce que c'est des élèves qu'on a envie d'aider. Je veux dire, ils sont impeccables en classe, ils se donnent à fond. Enfin, par exemple, on a un lycée quand même où le seul qui a eu les félicitations de sa classe, c'est un jeune qui est suivi par la Saude. Voilà, ils se battent, ils en veulent, ils sont super respectueux des professeurs et les établissements les auraient soutenus de toute façon, mais ont d'autant plus envie de soutenir des jeunes qui sont des très bons éléments.
Bien et donc, sûr. Tech 31, quelle est votre place dans l'exposition? Qu'est-ce qui...
Bah, on est associé à cette exposition. On a été contacté justement par Madame Brunello qui nous a dit voilà ce qui se passe, cette exposition est en train de se mettre en place, votre association a toute sa légitimité. Donc, on a suivi les premières réunions, on va y être, bien sûr. C'est fondamentalement important pour nous. D'abord, déjà parce que on est content d'y avoir été invité. Et puis, évidemment, sur les notions de solidarité, c'est ce que vivent les jeunes, ça rejoint complètement les idéaux de Banksy. Et en plus, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup quand même d'associations qui sont liées finalement aux jeunes. C'est-à-dire, il y a l'hôpital du coin. L'hôpital du coin, c'est là où les jeunes se soignent. Là, il y a le Secours Pop. C'est qui les aide à se nourrir. Il y a SOS Méditerranée, qui sont quand même ceux qui les... Parce qu'il faut savoir que nos jeunes, c'est ce qu'ils font. Ils traversent la Méditerranée, il y en a qui ont été sauvés par SOS Méditerranée. Donc évidemment, ils sont vraiment partie intégrante de toute cette entraide qu'il peut y avoir autour de jeunes migrants.
Et donc concrètement, on va vous retrouver. Enfin, il y a des stands pour les associations. Comment ça se passe? Comment sont-elles visibilisées, les associations?
Alors non, il n'y a pas de stand, mais les associations s'inscrivent comme bénévoles, enfin les gens des associations, tout au long de l'exposition, ils viennent rouler des affiches. Parce qu'à oui, ce qu'on a oublié de dire, c'est que l'exposition est gratuite, les gens donnent ce qu'ils veulent à la sortie, cet argent-là est redistribué ensuite aux associations. Et j'ai oublié ce que j'allais dire.
Les affiches.
Oui, voilà, les affiches. Et donc, oui, donc l'exposition, il y a des gens qui vont accueillir les gens qui viennent pour l'exposition Banksy, les accompagner jusqu'à l'atelier. Il y en a qui vont surveiller un petit peu, de la médiation culturelle aussi, parce qu'il y a possibilité aussi qu'ils se forment à la médiation culturelle dans la semaine juste avant l'exposition. Voilà, accueillir les gens, les compter, voilà, il y a quand
et
même...
Et donc ensuite, c'est la Banksy Modeste Collection, voilà, qui gère les dons.
Les dons.
Et qui les redistribue.
Aux associations. Il y a aussi en vente une sérigraphie qui a été faite spécialement pour cette exposition, qui est au prix de 120 €, mais qui est déductible des impôts à 66%. Donc les gens peuvent aussi acheter. Et tout cet argent-là est redistribué aux associations qui ont participé. Il y en a quand même un petit nombre. Voilà, il y a Tech 31, mais il y a toutes les associations, en fait, qui... de solidarité, qui aide les gens en ce moment. Voilà. Donc c'est un beau projet humaniste, on va dire.
Voilà, c'est ça. On est vraiment... Oui, Jennifer.
Oui, non, et pour nous, donc en tant que bénévole, on va participer, mais c'est surtout les jeunes, ils vont y participer. Alors, les jeunes, évidemment, qui sont scolarisés à Urbain Vitry, mais les jeunes qui ne sont pas scolarisés, qui ne demanderaient que ça. On a visité le lycée avec un petit groupe il n'y a pas longtemps. Mon Dieu, ils auraient commencé le lendemain à 8h sans aucun problème, et qui vont être là. Et pour nous, c'est très important. Alors, évidemment, il y a l'aide financière, mais en fait, il n'y a pas que ça, c'est la visibilité. C'est-à-dire que... Donc, ils viennent de vivre une période extrêmement compliquée. Il faut savoir quand même qu'il y a eu quelques articles de journaux qui ont été vraiment immondes contre ces jeunes. Et voilà, on va pouvoir les découvrir tels qu'ils sont, c'est-à-dire des jeunes qui en veulent, des jeunes qui se battent, des jeunes qui sont prêts à étudier et avec lesquels vous allez voir que le contact est très facile et qu'on a vraiment envie de protéger. c'est la vision sera beau, enfin beaucoup plus réaliste, et enfin ils vont être visibles de la manière dont ils sont vraiment et pas complètement fantasmés par
les médias.
Exactement.
Les merdias, hein, c'est un petit hommage à Fatima, c'est ça, c'est l'expression qu'elle utilise. On arrive au terme de cette émission, je vous remercie beaucoup. Alexis, peut-être un petit mot de la fin. Tu attends l'ouverture de l'exposition avec quel état d'esprit ?
J'ai envie de travailler à cette exposition au maximum, donc c'est pour ça que j'ai pris toutes mes soirées, c'est-à-dire que je finis tous mes cours à 16h20. Et à 16h30, je démarre tout de suite au food truck jusqu'à 19h.
Attention au burn-out. Hein.
Non, ça va aller.
Non, en tout cas, on te remercie beaucoup de te rendre disponible pour ce projet. Et donc, on rappelle aux auditeurs, il faut que je retrouve dans mes papiers, voilà, l'exposition Banksy à Toulouse, Street Art et Solidarité, exposition gratuite du 20 avril au 5 mai 2024, de 11h à 19h au lycée Urbain Vitry, 150 route de Launaguet, à Toulouse. Métro 3 Cocu, bus 61. Et sur ce, on vous remercie encore de votre présence. Merci à Thierry, on lui a pas dit au revoir, ouais. Il était retenu, on lui a dit au revoir en privé, mais on le salue aussi, il doit peut-être nous écouter depuis une voiture. Et puis, Germain, à la semaine prochaine. Merci pour ta contribution, et tu peux lancer le générique.